Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel et vous écoutez une nouvelle émission animée par Olivier Lestis et Dominique Desmichel, Fragments de Ciel. Fragments de Ciel. Radio Grand Ciel va fêter cette année ses 30 ans. Les 9 et 10 octobre, nous aurons un week-end pour célébrer ce moment et vous, auditeurs, en serez largement informés. Au fil de ce premier semestre de cette année 2021, il nous a semblé important de revenir sur l'histoire de cette radio, non sous la forme d'une sorte de compte-rendu historique, mais par le biais d'une rencontre avec quelques-uns des acteurs fondamentaux qui ont donné son âme à Radio Grand Ciel. Nous nous retrouverons ainsi une demi-heure par mois jusqu'à l'automne et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Raymonde Richard. Raymonde, bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour, ça me fait drôle, effectivement, d'être de l'autre côté de...
Et ça va vous changer, oui,
parce que... Pas de la barrière, mais...
Oui, parce qu'on va peut-être dire deux mots de ce que vous faites, parce que vous animez beaucoup d'émissions, vous êtes certainement...
J'anime des émissions, en effet.
Oui, et puis vous êtes certainement l'un des piliers du studio de Dreux et de Radio Grand Ciel, globalement, d'ailleurs, puisque vous...
Ça s'est largement développé, quand même, depuis, hein, je peux vous dire. Parce qu'au début, il y avait, quoi, 4 heures. 4 heures d'émission, de création d'émission.
Et comme aujourd'hui, vous faites à peu près 4 heures d'émission
par jour,
ou presque.
Maintenant, c'est, on émet tous les jours, 7 à 8 heures. Ouais. Bon, dans les rediffs, mais les 4 heures, c'était les 4 heures de création. Aujourd'hui, tout n'est pas création, mais bon, il y a quand même 3 fois plus de création.
Donc, combien d'émissions vous animez ?
15 par mois.
15 par mois. C'est très impressionnant quand même.
Oui, c'est impressionnant, mais en fait, il y a des émissions qui sont plus faciles les unes que les autres. Par exemple, l'émission qui consiste à lire des encycliques ou bien commenter au fil du texte tel ou tel document d'église ou tel... dans certains cas, c'était tel texte biblique. Ça dépendait des gens avec qui j'ai fait cette émission. Mais, donc c'est vrai qu'on n'a pas à chercher qui va intervenir. Enfin, je veux dire que c'est facile, ce type d'émission-là.
Oui, il y a des émissions qui supposent plus de préparation que d'autres, sans doute.
Voilà, il y a des émissions qui supposent de trouver la personne qui va répondre, de connaître ce qu'il fait, sa problématique, ce qu'il veut raconter. Donc ça demande un peu de préparation, davantage en tout cas.
Oui, cela dit, l'explication d'un texte, ce n'est pas forcément facile non plus. Alors dites-nous un tout petit peu sur ces 15 émissions mensuelles. Vous couvrez quel champ ? Alors bien entendu, vous couvrez le champ de questions d'église, de lecture de texte, vous avez des invités,
Oui, alors il y a quelquefois des invités. Les invités, c'est un peu par hasard aussi. Et, par exemple, j'anime une rencontre biblique. Et au cours de la rencontre biblique, une personne qui est là, qui me dit « Ah mais vous savez, mais moi je crois que vraiment que Dieu intervient dans ma vie aujourd'hui de façon miraculeuse. » Je me dis « Bon, les miracles aujourd'hui, d'accord, mais enfin... » Bon, et puis du coup, elle raconte son histoire par rapport à une histoire de médecine et une histoire qui est assez fantastique parce que finalement, elle fait partie des gens qui ont été greffés du foie, mais deux fois. Et qui ont Paul Brousse lui a demandé de est-ce que vous voudriez bien écrire vos mémoires.
Et ce sont des gens qui ont la foi en plus. Après deux grèves de foi, c'est
oui,
quand
c'est
même
ça.
Pas
après
mal.
La grève de foi, elle a la foi. Non, mais en fait, alors elle m'a dit voilà, à la deuxième grève, la personne qui était là lui a dit vous êtes miraculé parce qu'il fallait trouver le donneur, miraculé parce que subir deux greffes, c'est quand même assez assez exceptionnel. Et puis en l'entendant, je lui ai dit, vous ne viendriez pas témoigner à la radio ? Et puis elle m'a dit, avec vous je veux bien. Mais avec moi, c'est parce qu'en fait, on se côtoie depuis très très longtemps dans tout à fait autre chose.
Et
donc je vais faire cette émission.
Donc la radio, c'est quoi ? C'est une histoire de lien, vous voulez dire, plus que de contenu ?
La radio, c'est une histoire aussi de lien, de relation avec des personnes. Et la radio, mais pour moi, c'est ça qui est... que je trouve passionnant dans la radio, c'est qu'en fait, bon, quand on fait ça depuis un certain temps, on pourrait dire, bon, on ras-le-bol. Mais en fait, c'est toujours nouveau parce que les gens que l'on rencontre sont nouveaux. Ou bien parce que l'environnement dans lequel on les rencontre a changé. Donc même quelque chose qui est dans le fond la même chose, ça a changé parce que les personnes sont différentes, parce que leur histoire est différente. Et je trouve que la radio qui leur donne à eux la chance de s'exprimer, des témoignages neufs, ils ne sont pas formatés, ces gens-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une chance. Et mettre en lien les personnes. Et en plus, c'était dans l'ADN d'origine de la radio.
Oui, c'est même encore son slogan, la radio qui rapproche les hommes, c'est ce que vous dites, au fond.
Oui, parce que, en fait, à l'origine de la création de la radio, il y avait cette volonté, un peu par hasard, Dreux s'est trouvé être le centre du Front National, donc un lieu où des journalistes venus de Paris ou de l'extérieur venaient pour dire « Regardez, à Dreux, ils s'affrontent ». Alors, c'est vrai que les reportages que l'on voyait à la télévision, c'était un coin de la place Mézirard qui faisait 100 mètres sur 100 mètres, et que 20 mètres plus loin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de CRS, il y avait du champ des curieux, mais on n'était pas à feu et à sang. Mais n'empêche que transposer dans les médias, cela faisait quelque chose d'extrêmement violent. Et à force de dire aux gens que oui, on s'affronte, que vous êtes violent, bien à force, ils vont le croire. Et à Dreux, où il y avait beaucoup de gens de cultures différentes, d'origines différentes, tout simplement parce que Dreux était une ville ouvrière qui allait chercher de sa main-d'œuvre loin. Ah bon, on est des gens qui s'affrontent. Je veux dire qu'il y a aussi, à présenter des images où on dit que les gens s'affrontent, le fait qu'après, ils vont s'affronter.
Oui, bien sûr, c'est tout le phénomène médiatique qu'on connaît à propos de n'importe quel type de situation.
Face à ça, Daniel Rambure, justement, le prêtre, dit, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens se rencontrent ?
Donc l'origine de la radio, c'est ça. C'est ce moment où Dreux a été très célèbre en France, parce qu'effectivement, c'est les premiers élus Front National dans les municipalités.
Parce qu'il se trouve que M. Sirbois était souvent à Dreux par son travail, par des attaches, et qu'il était numéro 2 du Front National. Bon, donc, voilà. Les choses qui vont et qui amènent des gens à se trouver différents, alors qu'en fait, ils partagent, dans la mesure où il y a du travail, il n'y a pas de raison de s'affronter, puisqu'il y a du travail pour l'un et pour les autres.
Et alors, si on revient un tout petit peu sur le contenu même de la radio, vous, ce qui vous a marqué dans ces dernières décennies de votre présence à la radio, indépendamment de l'augmentation en termes de contenu, du côté justement des gens qui l'ont fait, vous diriez quoi, vous, à partir de votre propre expérience et de ces rencontres que vous évoquez ?
Alors, c'est très drôle parce qu'au début, moi, j'étais prof. Je suis restée prof. Bon, ça traduit à 30 ans, mais ça fait 15 ans que je suis à la retraite. Donc, les 15 années avant, je faisais de la radio, mais un peu de temps en temps ou en passant, ou un peu par hasard, ou... Comment dirais-je ? Par exemple, dans cette optique de mettre les gens en relation les uns avec les autres, il se trouve que qu'étant prof, on rencontre les parents d'élèves qui sont différents, par définition. Et puis, il se trouve que j'étais drouaise et que mes parents tenaient un café-tabac. Et que un café-tabac, journaux aussi. Ce qui m'amenait à rencontrer des gens très, très différents. Et l'abbé Rambure m'avait demandé, dans le fond, puisque vous voyez des gens différents, bon, par la paroisse, mais aussi par le métier de prof, mais aussi par... parce que je donnais le coup de main à mes parents quand ils... on est dans un troquet, on rencontre des gens très, très différents. Donc,
et puis sociologiquement, le café, c'est quand même un des grands lieux.
C'est un lieu de rencontre.
De rencontre, oui. Voilà. Et de convivialité.
Et puis, je rencontrais là des travailleurs migrants, entre les clients qui passaient à 6h du matin, qui étaient les laitiers qui allaient ramasser le lait dans la campagne, et puis les gens de la petite bourgeoisie qui venaient taper le carton ensemble, ou bien ceux qui venaient prendre l'apéritif parce que pour fêter quelque chose. C'était des gens très différents. Donc, de fait, je voyais les gens très différents. Donc, l'abbé Rambure me demande, est-ce que vous pourriez... amener à la radio des gens qui veulent bien témoigner de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, etc. C'est comme ça que j'ai fait, que je suis allée à la radio pour dire à la directrice pressentie à ce moment-là, qui s'appelait Annie Planès, bah tiens, il y aurait telle personne. Bon. Alors j'ai dû en rabattre une ou deux, et puis un jour Annie me dit, mais dans le fond, puisque vous la connaissez, est-ce que vous ne voudriez pas l'interroger ? Voilà, ma première émission c'était ça, c'était interroger quelqu'un qui...
Et pour interroger, vous aviez l'habitude.
Alors pour interroger, j'étais prof, mais enfin, c'était pas la même chose. Mais je me souviens de cette émission. C'était avec un professeur, oui, parce que c'est complètement différent, pour plusieurs choses. Parce que dans une émission, vous annoncez qui vous êtes. Moi, j'annonçais Raymonde Richard. Je suis professeur de l'enseignement public laïque dans un lycée à Dreux. Énoncer mon nom, Raymonde Richard, dans une émission catholique, enfin, dans une émission d'une radio catholique. Bon, ben voilà, je me suis dit, ben après tout...
J'assume.
J'assume, voilà. Mais ça, c'est vrai que j'y ai pensé.
C'est-à-dire, vous aviez quoi ? Une forme d'attachement à une sorte d'idéal laïque, c'est ça que vous voulez dire ?
Moi, j'étais prof de l'enseignement public laïque et obligatoire, et puis vraiment très à l'aise dans mon boulot et bien contente de faire ce travail et sans aucun problème. Puis je me suis dit, ben dans le fond, me démarquer officiellement, si j'ose dire, enfin en annonçant à la radio que je suis, que je vais dans une radio chrétienne. Bon, et puis il fallait que je le dise aussi à cette. C'était une collègue qui faisait un voyage en Italie et qui était. Bon, son mari était très, très syndicaliste, laïca. Je me suis dit, bon, là... Alors, un, est-ce qu'elle va accepter ? Parce que je lui ai dit, ben, la radio est chrétienne. Et puis, deux, sachant que cet aspect de laïcité conquérante, comment ça va passer ?
Et légitime, dans un sens aussi, d'ailleurs.
Et c'était légitime, oui. Eh bien, alors... Ça a été ma première expérience, mais c'était une expérience positive parce que, un, elle a accepté, et puis il ne s'est rien passé. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi se faire des montagnes, des choses ? Et donc, bah, j'ai fait cette émission. Alors après, j'en ai fait quelques-unes, un peu au hasard, avec quelques personnes que je rabattais qui étaient interrogées par d'autres, puis quelques personnes avec qui je disais, bah, tiens, tu ne viendrais pas parler de ça à la radio ? Voilà. C'était, alors je faisais quoi ? Deux émissions par mois.
Et finalement, c'est parce que là, vous faites confronter, je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant qu'émerge ça dans votre parole, cette opposition finalement entre ce qui est du côté de la laïcité et ce qui est du côté du religieux au sens large du terme. Cette radio ici, Radio Grand Ciel, est d'abord et avant tout culturelle. Comment vous sentez cette articulation pour vous-même, peut-être, et dans votre ressenti, entre ces deux espaces-là, un, on pourrait dire, avec un côté très, très universel, et j'allais dire probablement trans-religieux, et puis une autre avec quand même une spécificité qui est autour du christianisme.
Ça ne m'a jamais posé de problème, parce que, de fait, la même chose se posait quand on est prof dans l'enseignement public, bon, on reçoit des élèves différents, et il se trouve que mes enfants étaient dans ce lycée. Et puis, bien, mes enfants, je les envoyais à l'aumônerie. Et puis, d'ailleurs, c'est très curieux parce que, en cours, évidemment, j'étais professeure d'histoire, je faisais les cours concernant le fait religieux, qui sont au programme, et je disais bien aux élèves, surtout, si vous avez une quelconque croyance, que ce soit la croyance juive ou la croyance musulmane ou la croyance chrétienne, finalement, dans le programme, il n'y a pas tellement d'univers étranger, il n'y a pas de bouddhisme ou de ce genre de choses, en tout cas dans le programme de cette époque-là. Je leur disais, eh bien, il s'agit ici de présenter, d'expliquer ce que c'est le judaïsme des origines, expliquer pourquoi ce rameau chrétien a-t-il... Donc, ça ne me gênait pas dans mon métier, donc ça ne me gênait pas non plus à la radio. À la radio, effectivement, il y a une fonction de christianisme d'exposition, mais il ne me revenait pas d'exposer, puisque moi j'interviewais des gens. Et en fait, c'était une émission, une autre émission où j'ai beaucoup donné, donc cette émission s'appelait Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Il s'agissait d'inviter des gens qui étaient des Yougoslaves, des Maghrébins, des... À Dreux, il y a 64 nationalités, donc il y avait le choix. Hein. Donc, dire, bien,
au moins 64
venez me parler de votre culture. Donc, ça ne posait pas de problème, parce qu'en fait, finalement, quand on est à côté des gens, ça va de soi, on se tape pas dessus.
Mais c'est bien à partir d'une situation où à Dreux, on estimait que tout le monde se tapait dessus, que la radio a été créée, que vous avez eu envie d'intervenir dans cette radio-là.
Et moi, j'étais complètement en accord avec cette idée de permettre aux gens de se connaître, parce que quand ils se connaissent, ils changent de point de vue même sur l'autre, même si l'autre fait partie de ceux sur lesquels, a priori, ils portent un jugement négatif. Mmh. Et quelquefois, il m'est arrivé de dire... Je dis, mais pourtant un tel... Ah, mais lui, c'est différent. Ça, c'était très drôle, parce que automatiquement les gens disaient, ah, mais non, mais lui, c'est différent.
Et en fait, celui, c'est lui que je connais, lui que j'ai rencontré.
Voilà, lui que je connais, que j'ai rencontré, avec qui on travaille, mais lui, c'est différent, voyons. Ben non, c'est pas différent, sauf que c'est dans la tête de ceux avec qui nous sommes, ou dans ma propre tête, que je vais faire chafaud des histoires. Et alors là... Puisqu'on évoque ce versant, il m'est arrivé d'interroger des gens, de me dire quand même, il est intéressant, lui, mais enfin, vraiment, c'est le pilier du cercle laïque, enfin, bon, je vais me faire envoyer dans les buts. Franchement, jamais personne ne m'a refusé de faire une émission, jamais. J'ai demandé, et ça, c'est parce qu'au début, j'étais très méfiante quand même, hein, j'allais pas me frotter aux responsables syndicalistes, mais après, ah ben, si, toi qui es... syndicaliste à fond du militant du MRAP, est-ce que tu peux venir parler du MRAP? Parce que bon, le MRAP et l'Évangile, c'est quand même proche, non? Mouvement contre le racisme.
Oui. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fondateur de la radio.
Oui.
Donc ça, j'imagine que Père Aubur, c'était quand même une rencontre pour vous très très marquante. Alors, peut-être que vous pouvez nous en dire sur cette rencontre-là, ou alors sur d'autres rencontres très très marquantes.
Avec lui, tiens, ça, c'est drôle.
Ben, pourquoi pas avec lui, oui.
Il se trouve que j'avais rencontré des religieuses qui, à Talca, où il y avait une fondation des religieuses, vous savez, celles qui faisaient les piqûres ici, qui étaient... Bon, le nom de leur...
Saint-Vincent-de-Paul, peut-être, non?
Pardon?
Saint-Vincent-de-Paul?
C'était pas Saint-Vincent-de-Paul. Non. À Chartres, il n'y avait pas Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, des religieuses qui étaient d'origine de l'Eure-et-Loire, qui avaient été en Amérique latine, et plus précisément au Chili, et c'était à Talca. Et ces religieuses, donc, elles sont en mission en Amérique latine. Et en Amérique latine... Il y a la présence de l'Église est très très importante, et bien évidemment, tout ce qui concerne l'éducation des femmes et des filles, étant donné l'attitude de l'Église, c'était dans les années 90, hein, vis-à-vis de ce problème des femmes et des filles, c'était pas de contraception, sauf par des moyens naturels, pas de... etc. Et alors, ces religieuses m'expliquent que dans leur boulot là-bas, en Amérique latine, et notamment à Talca, la religieuse me dit, alors c'était une interview ici, parce qu'elles étaient leur mission, et elles revenaient dans leur maison mère, en Eure-et-Loire. Alors elle me dit, ah, mais vous savez, c'est que vraiment, il y avait toute une... nous, on nous éduquions, les filles et les garçons qui étaient dans notre village, et puis nous leur expliquions... La régulation des naissances, la contraception, qu'il est important de... Parce que vous comprenez, c'est bien gentil d'avoir le 6e, 7e, 8e enfant, et puis dans certains cas, n'avoir aucun moyen pour les soigner. Et alors, je me souviens, elle m'avait dit, est-ce que vous imaginez ce que ça représente lorsque une maman vient avec son enfant sur les genoux et que finalement, ce que je peux faire, c'est uniquement l'accompagner pour le mettre au cimetière?
Oui.
Donc, j'intervenais pour... Donc, la sœur m'explique, j'intervenais pour expliquer que la contraception, c'est important, que, enfin bref, j'éduquais des filles et des garçons. Et alors après, La Bérambure me dit, mais vous rendez compte, Raymond, mais vous avez laissé dire ça. Ah, je vais dire, ben attendez, premièrement, un, je ne censure pas ce que les gens disent. Deuxièmement, c'est une bonne sœur qui s'exprime sur ce qu'elle fait. Et troisièmement, en plus, je suis complètement d'accord avec elle.
Et alors, est-ce que vous pensez alors plus largement que cette liberté, au fond, de parole, qui n'est évidemment pas une liberté sans loi, hein, parce que la vraie liberté, elle intègre aussi quelque chose de l'ordre de la loi, celle que vous évoquez, par exemple, de respecter la parole de l'autre, d'écouter tous les points de vue. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un fonds de commerce important à Radio Rancière ?
Avoir joué sur la vérité, oui. Jouer sur les... essayer de chercher ce qui est... pas simplement se contenter de raconter les choses. Effectivement, il faut que la radio d'ici informe les gens d'Eure-et-Loire de ce qui se fait en Eure-et-Loire. Mais je crois que sur les émissions, comme celles que moi je fais, c'est-à-dire sur le mal-développement, par exemple, avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement en Terre solidaire, je fais une émission hebdomadaire. Bon, mais il m'arrive d'aller chercher de l'information. Il y a l'information que donne le CCFD, mais je la confronte avec ce que dit le journal Le Monde là-dessus, ou bien ce que disent, s'il s'agit de questions d'entreprise, je vais voir sur le site de l'entreprise, comment fonctionne l'entreprise machin, ou bien je vais voir aussi, puisqu'on a la chance d'avoir Internet maintenant, c'est merveilleux ça. On peut aller voir ce qui se passe en Afrique, dans l'actualité du Nigeria ou du je sais pas quoi. Et ce travail de confrontation, ça j'avoue aussi que c'est quelque chose auquel je crois qu'il est vraiment très important de dire nous sommes une radio qui ne se contente pas de raconter la catastrophe machin, mais qui essaie d'expliquer pourquoi il y a la catastrophe machin.
C'est aussi peut-être l'historienne et l'enseignante qui parlent dans cette liberté
oui, c'est ça,
de parole
mais
que vous voulez absolument préserver.
Oui,
il y a ça.
Mais alors...
Et puis la recherche d'une vérité, en tout cas d'une
la recherche de la vérité, ouais. La recherche... Dans mon métier, par exemple, je m'occupais du service éducatif des archives. Et il m'est arrivé de trouver des archives qui contredisaient exactement ce qu'on enseignait de façon... il y a un catéchisme républicain.
Bien sûr.
Et je me souviens d'avoir dit à mon inspecteur, mais vous voyez, en Eure-et-Loire, bien je vais vous dire sur quelles archives je me bats pour vous dire ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une vérité, il y a ce que l'on a élaboré de façon très solide. Il y a les faits, mais après l'interprétation des faits, là, il y a multiples vérités. Donc, cette liberté que j'avais dans mon enseignement, je trouvais que si à la radio, la moindre des choses, c'était au moins de retrouver la même liberté.
Il nous reste 3-4 minutes, je crois, au terme de cette première émission en tout cas. Qu'est-ce que vous diriez, vous, que ça vous a apporté, au fond, toutes ces longues années, ces décennies-là de travail? Et peut-être c'est la première question, et j'aurais envie de l'orienter aussi vers l'avenir. Et vous vous sentez quelle place pour les années qui viennent?
Si Dieu me prête vie et me permet d'avoir des ménages qui fonctionnent, parce que c'est ça aussi, poursuivre des émissions dans lesquelles intervient l'actualité et la rencontre des personnes, ça me paraît, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Jonathan, par exemple... Antérieurement, il m'est arrivé de faire des émissions avec l'éducation nationale. Maintenant, je me suis éloignée de l'éducation nationale. Je ne les ferai plus. Voilà. Donc là, il y a des volets pour lesquels je ne me sens pas plus compétente. Donc non, je ne ferai plus ces émissions-là. Par contre, des émissions sur une actualité qui rejoint les problématiques des migrants ou bien du mal-développement... ou bien de ces questions de société, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, je me fous pas mal de rencontrer le maire, le je sais pas quoi, ça, c'est pas mon truc.
En tout cas, vous...
Mais la radio, justement, c'est une chance, du coup, pour moi.
Une chance pour vous, c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que c'est aussi une chance pour la radio, manifestement, de vous avoir, quand même.
Une chance. Alors, c'est gagnant-gagnant. une chance pour moi aussi, parce que... quand vous lisez quelque chose et que c'est que pour vous, quand vous faites un travail sur, que vous, je sais pas moi, lisez les Actes des Apôtres, et bon, bah, franchement, bon, c'est pas folichon, mais si vous le faites dans l'optique de, tiens, je le fais avec d'autres, et puis peut-être je le fais aussi pour donner envie à des auditeurs de lire ce texte, ça m'intéresse. Donc, et c'est bien pour la radio, mais c'est bien pour moi, parce que ça donne du sens.
En tout cas, c'est assez formidable. Je pense qu'il va falloir qu'on conclue très vite pour aujourd'hui.
Juste une question. Oui. Vous retiendriez quoi pour ce qui vous concerne, vous, c'est-à-dire là où ça vous a fait changer de place et peut-être changer au fond un peu d'être, dans le sens où peut-être c'est ce chemin de vie. Et j'aime bien dire, parler, c'est toujours être en chemin. Alors la radio, c'est quand même du langage, vous l'avez dit d'ailleurs au tout début. Donc vous diriez, du côté de cette parole partagée, vous avez beaucoup insisté sur le partage, vous diriez, ça vous a changé où ?
Eh bien, ça m'a changé dans la mesure où, au début, j'avais quand même des a priori sur quelques personnes. Je me disais, tu es à Radio Grand Ciel et tu dois recevoir des gens de tous les bords. Eh bien, maintenant, ce n'est plus une question de tu dois recevoir des gens de tous les bords. C'est d'avoir observé que pour chacun, chaque personne, notamment pour l'émission Témoins, je fais une émission qui s'appelle Témoins, donc c'est les gens qui témoignent, c'est leur histoire. Eh bien, c'est d'avoir repéré la cohérence, ou en tout cas, les gens qui font des choix, ils font des choix par rapport à eux-mêmes, par rapport à un environnement, par rapport à leur histoire. Et j'ai beaucoup plus, ce qui m'a changé, c'est beaucoup plus de respect et d'attention pour des gens même qui sont très, très, très différents de moi, parce que c'est normal qu'ils aient la parole, y compris la parole à la radio, et que si c'est moi qui peux leur donner, pourquoi pas. Et en tout cas, de regarder cette cohérence et dans certains cas, de leur dire, eh bien, c'est vous qui dites cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais parlons-en. Mais en tout cas, votre choix, je le comprends. Et ça m'a changé, moi, personnellement, dans la mesure où ça n'est plus par devoir que je reçois des gens différents, mais où je me dis, les gens différents, quelle richesse.
En tout cas, aujourd'hui, dans cette émission, c'est vous le témoin. Et quel témoin ? Parce que vous avez fait visiter quelques origines de la radio politique que j'ignorais personnellement. On est allé faire un petit tour au Chili. Vous nous avez montré, démontré à quel point la liberté de parole pouvait être importante pour vous et donc pour cette radio. En tout cas, merci beaucoup Raymond. Je crois que beaucoup d'auditeurs vous connaissent. Peut-être que certains vous connaissent un petit peu mieux maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
Bien, merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Que já viu a lua gris quando a lua começa a murchar, lua gris, e é preciso gritar e correr, socorrer, oh lua, meu amor, se abre a porta pra noite passar. E olha só na manhã, e olha a chuva, e olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina, imagina, sabe que o menino que passa debaixo do arco-íris vira moça, vira. E a menina que cruzada volta ao arco-íris, rapidinho volta a ser rapaz. E a menina que passou no arco era menino, que passou no arco e vai virar menina. Imagina.